Voilà, bonsoir et bienvenue pour cette conférence « Faut-il connaître ses gènes pour maîtriser sa santé ?» Je suis Bruno Sato, responsable du département d'éthique biomédicale. Alors, en ce titre, je suis ravi de vous accueillir ce soir. Très honoré aussi de la présence de Xavier Jeunemaître, que nous avons déjà rencontré. Merci beaucoup, et du professeur Jean-Louis Mandel. Merci beaucoup de venir ce soir. Donc l'objectif de ce cycle de conférences intitulé médecine, bioéthique et société, c'est de replacer les techniques biomédicales, l'usage des techniques biomédicales dans des enjeux de société, dans des enjeux politiques, dans des enjeux éthiques. Donc le but, c'est pas simplement de présenter l'état des techniques, ce qu'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire, ce qui est juste scientifiquement, ce qui n'est pas juste scientifiquement, ça c'est important aussi de le préciser, mais aussi de montrer les enjeux pour la société, notamment les enjeux sociaux et politiques. Donc je vais passer la parole au professeur Pierre Corvol, que je remercie d'avoir contribué à mettre au point cette conférence et à animer cette conférence. Merci beaucoup de l'animation de cette soirée, et voilà, merci de votre présence.
Merci Bruno et merci à Jean-Louis Mandel et à Xavier Jeunemaître effectivement d'animer cette soirée. Elle va consister à une brève introduction de ma part et puis chacun d'entre eux à 20-25 minutes de façon à avoir un bon temps pour la discussion. Alors plutôt que d'introduire l'ADN etc. qui va être très bien fait par mes collègues, j'ai pensé que c'était une bonne manière de faire le point sur l'histoire du séquençage, car en dehors de la technologie, il y a un certain nombre de leçons justement sur le plan de l'éthique et sur le plan des conséquences sociétales que cette énorme découverte a permis. En 90, il y avait beaucoup de sceptiques sur la possibilité même d'arriver à séquencer complètement le génome humain. Il y a eu une approche qui a été à la fois privée par le consortium Celera Genomics, une société dirigée par Craig Venter, et d'autre part un consortium public international à prédominance américaine qui a, été en concurrence directe avec la société privée Celera Genomics pour aboutir au début des années 2000 au séquençage complet. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que le séquençage avançait, des questions éthiques et sociétales se posaient. Et voilà le résultat brut, si je puis dire. En 2003, donc, la séquence complète du génome humain est disponible. Elle est considérée comme patrimoine de l'humanité à la suite d'une conférence qui s'est tenue à l'initiative notamment du Wellcome Trust anglais en 1995, avec obligation de dépôt des données qui sont donc libres et accessibles pour tous dans GenBank, une précision qui devait être de 99,99%, c'est-à-dire d'une erreur nucléotidique sur 10 000, ce qui n'est pas négligeable. Hein. On va parler d'une mutation qui peut entraîner des conséquences. Et donc, néanmoins, il y avait un souci de précision remarquable. Pas de brevet. L'UNESCO, en 1997, a déclaré justement le génome humain comme un bien de l'humanité et exclut le fait que l'on puisse utiliser directement la séquence de l'ADN. Néanmoins, les séquences qui peuvent être travaillées, modifiées, faire l'objet d'un procédé diagnostico-thérapeutique peuvent être brevetables. Et vous connaissez toute l'histoire. On en avait évoqué d'ailleurs avec Dominique Stoppa-Lyonnais quand on avait parlé du diagnostic du cancer du sein, toute l'histoire de la brevetabilité des séquences codant pour les gènes BRCA1, BRCA2, qui sont des gènes responsables en grande partie de cancer du sein, familiaux. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce sont les applications qui avaient été tout de suite vues par les initiateurs du Genome Project, Human Genome Project. C'était un, les maladies rares, la prédisposition au cancer et les maladies monogéniques dont Jean-Louis Mandel va parler dans un instant, mais aussi il y avait l'ambition de pouvoir repérer des gènes qui pourraient être responsables, en partie au moins, d'affections plus courantes, l'hypertension, le diabète, l'obésité, avec l'idée par derrière d'une médecine de précision. Alors, entendons-nous bien sur les termes. On parle de médecine individualisée, de médecine personnalisée, ce qui est quand même pour un médecin je dirais, n'est pas quelque chose de tout à fait acceptable. On personnalise quand même la médecine au maximum. La médecine de précision est sans doute ce qui convient le mieux. Aujourd'hui, on peut dire que ce projet se continue en quelque sorte, ayant à disposition une masse de données. Il faut essayer d'aller plus loin. On va en parler tout à l'heure. Et il y a deux manières, encore une fois, de voir les choses. Soit d'une manière, je dirais, privée, avec des sociétés qui exploitent, je dirais, le données du séquençage pour mettre à la disposition des médecins ou des personnes qui le souhaitent, les informations génétiques qui les concernent. On en parlera sans doute tout à l'heure. En tout cas, il y en a deux que j'ai regardé de plus près. Veritas Genetics et 23andMe, 23 et moi, qui pour 999 dollars vous permettent d'avoir accès, si votre médecin agrée, il faut quand même un accord du médecin, vous permet d'avoir My Genome, My Ancestry, My BRCA, c'est-à-dire mon risque d'avoir un cancer du sein, en tout cas en tenant compte de ces deux gènes, My Prénatal, My Newborn. Ça, c'est sur Veritas Genetics, d'accord, pour 999 dollars. Point intéressant, c'est que sur le plan maintenant de l'utilisation à large échelle des données du génome humain, se mettent en place ou se sont déjà mises en place des études alors extrêmement importantes, à savoir 100 000 et même 1 million récemment avec l'initiative d'Omama sur la médecine de précision, 1 million de génotypages qu'on va relier bien entendu au phénotypage, c'est-à-dire liés ADN et traits cliniques, pour essayer de voir de façon prospective quels sont les liens qui peuvent exister entre certains variants génétiques d'une part et d'autre part l'apparition de maladies. Avec évidemment, là aussi, je dirais, des conséquences non seulement sociétales mais économiques et financières lourdes, puisque ceci intéresse les systèmes de santé, notamment aux États-Unis, ce qu'on appelle les healthcare providers, mais aussi, je dirais, tout le traitement des grandes données, qui est tellement à l'heure actuelle à la mode. En fait, le premier traitement des grandes données, ça a été le traitement des 3 milliards de paires de bases du génome humain. Donc, il y a là des intérêts, je dirais, intellectuels, mais aussi économiques et financiers sociétaux. Et Google, par exemple, a financé, je prends juste cet exemple, 23andMe, et par sa filiale Calico, est particulièrement intéressé. Donc, je voulais simplement vous donner un tableau général, parce que ce dont nous allons discuter aujourd'hui, c'est on va rentrer dans le détail d'une mutation, etc., mais aussi de tout cet environnement socio-économique, financier, en même temps que ces progrès fabuleux, car sincèrement, on peut dire que très peu de personnes, en tout cas vraiment très très peu, y compris les grands spécialistes, auraient imaginé qu'on puisse aujourd'hui avoir une discussion sur ce sujet et qu'en sortant, si vous êtes persuadé, vous mettez 1000 dollars et vous avez votre génome. Vous pouvez, les pays en voie de développement ne peuvent pas, ça pose d'autres types de problèmes évidemment. Voilà, j'en dis pas plus parce que Jean-Louis et ensuite Xavier Jeunemaitre vont l'un après l'autre présenter en détail le projet, le sujet, et puis nous ouvrirons ensuite la discussion. Jean-Louis, à toi.
Voilà.
Alors, je donne mon micro à Jean-Louis.
Ça va ? Oui, d'accord, ok. Bien, donc...
J'ai oublié de le faire, excusez-moi. Jean-Louis Mandel est un généticien, un clinicien et fondamentaliste de l'Université de Strasbourg. Nous avons été collègues au Collège de France. Il vient de quitter le Collège de France et il nous fait la gentillesse de venir. C'est en même temps quelqu'un qui a énormément contribué à la génétique des maladies neurodégénératives et particulièrement pour l'une d'entre elles les plus redoutables, le Huntington.
Voilà, merci. Donc, je vais peut-être au début, juste pour cadrer, dire en 5-7 minutes, ce qu'est le génome et en quoi des variations du génome sont liées à différents types de maladies et aussi avec une liaison qui peut être vraiment une liaison de causalité forte ou au contraire simplement une modulation. Et donc je pense que c'est important quand même de voir cette différence. Ah oui, donc il faut utiliser. Alors simplement comme l'a dit déjà Pierre Corvol, notre génome c'est en fait 3 milliards ou plutôt 2 fois 3 milliards de lettres. Les lettres qui sont dans l'ADN pour écrire l'information du génome, c'est A, G, C et T. Donc c'est leur association, leur séquence. Et alors pourquoi 2 fois 3 milliards? Parce qu'effectivement, nous sommes porteurs d'une copie du génome qui nous vient de notre mère et d'une copie du génome qui vient de notre père. Donc en fait, c'est 2 fois 3 milliards. Et juste parce que 3 milliards, comme ça, c'est difficile à visualiser ce que c'est, c'est deux fois, donc le génome humain, c'est deux copies de 500 000 pages comme celle-ci. Et ce qu'il faut se dire, c'est que il y a une variabilité de ce génome entre chacun d'entre nous, c'est parce qu'il y a une variabilité humaine, et que, par exemple, entre deux personnes, on va pour simplifier, de même sexe, parce que comme il y a des différences de chromosomes Y et X, ça complique un peu les choses, mais en deux personnes donc de même sexe, il y a à peu près 3 ou 4 millions de différences. Et d'autre part, il suffit, dans certains endroits de ce génome, d'une seule lettre sur les 6 milliards, sur les 2 fois 3 milliards, une seule lettre qui, au mauvais endroit, y ait une erreur, ce qu'on appelle une mutation, pour donner des maladies qui peuvent être tragiques. Comme par exemple, des enfants qui auront un autisme très sévère et qui seront, qui auront une déficience intellectuelle sévère, qui probablement n'apprendront pas ou très mal à parler, etc. Et ça, ça peut être, dans certains cas, une seule lettre sur les 6 milliards, sur une des copies du génome, une lettre qui n'est pas la bonne. Alors, heureusement, la plupart des variations n'ont pas cet effet-là. La plupart des variations n'ont pas d'effet ou peuvent avoir des effets sur la couleur des yeux, le fait qu'on ait les cheveux bouclés ou pas bouclés, des choses comme ça. Ou pas d'effet du tout. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc 0,1% de variation entre deux individus de même sexe. Il peut y avoir aussi des segments de chromosomes qui, au lieu d'être en deux copies, une maternelle, une paternelle, on peut avoir perdu une des copies, donc on va dire qu'il y a une délétion, ou il peut y avoir une duplication d'à trois copies, et dans certains cas, le fait d'avoir un segment de chromosomes où il y a une copie ou trois copies au lieu de deux, peut être un facteur pathologique important. Et puis vous connaissez tous la trisomie 21. Le chromosome 21 est un des plus petits chromosomes humains, donc celui qui a le moins de gènes, si vous voulez. Et pourtant, d'avoir trois copies au lieu de deux donne ce que vous connaissez, la trisomie 21. Et d'avoir une copie, c'est en fait complètement létal à l'état embryonnaire. Donc une copie, ça n'est pas compatible avec la survie même de l'embryon. Donc vous voyez ce choix. Et ensuite, pour comparer donc 0,1% de différence entre chacun d'entre nous, par rapport à environ 1,3% de différence entre nous et un chimpanzé. Donc ça vous donne un peu une idée de cette variation. Alors, gènes et maladies, et je voulais montrer quatre cas de figure. Il y a ce qu'on appelle les maladies proprement génétiques, elles font dire héréditaires, mais qui sont des maladies, je dirais, à causalité génétique. C'est-à-dire que c'est vraiment une erreur dans la séquence du génome qui fait que certainement ou quasi certainement vous allez développer une maladie spécifique. Donc ça c'est vraiment, c'est le cas par exemple de la mucoviscidose, c'est le cas de la myopathie du chêne, c'est le cas d'environ 4000 maladies génétiques, en général très rares, où vraiment on peut attribuer la cause à une mutation sur une des copies ou sur les deux copies paternelles et maternelles, selon les cas, du génome. Ensuite, vous avez les maladies communes, parce que je vous dis, les maladies génétiques, en général, c'est des maladies rares, même la plus fréquente dans la population française de la mucoviscidose, c'est environ une personne atteinte sur 3000. Par contre, les maladies communes, c'est le diabète, c'est la polyarthrite rhumatoïde, c'est la schizophrénie, c'est les maladies communes. Et en fait, on sait que les maladies communes arrivent par une interaction entre des facteurs de susceptibilité génétique, mais qui sont des facteurs complexes, plus ou moins importants selon les maladies, et répartis sur souvent un grand nombre de gènes, et des facteurs de l'environnement. Et c'est cette interaction entre facteurs de l'environnement et facteurs génétiques complexes qui va faire que certains d'entre nous vont développer telle ou telle maladie commune, plus ou moins tôt, mais donc avec une grande complexité. Et ensuite, il y a les cancers dont je pense que Xavier Jeunemaître va surtout parler. Et à quelques exceptions près, peut-être on en parlera parce que c'est important sur les aspects éthiques de certains cancers héréditaires où il y a une mutation qui peut se transmettre de parent à enfant. C'est le cas des prédispositions au cancer du sein. Le cancer, c'est effectivement une maladie génétique, mais une maladie où les mutations, les changements pathologiques du génome sont survenus uniquement dans la cellule cancéreuse. Et c'est des accumulations de variations dont certaines peuvent être plus ou moins pathogènes. Et donc, comme c'est dans certaines cellules, ces cellules vont acquérir cette possibilité de devenir invasives, de métastaser, etc., de se diviser de manière non contrôlée, mais ça n'est pas transmissible à la descendance, parce que ça n'est que dans des cellules dites somatiques. Et puis, le dernier cas de figure, c'est la pharmacogénétique. Et la pharmacogénétique, ce que c'est que certaines variations dans des gènes, dans certains gènes de notre génome, vont moduler la réponse à des médicaments. Moduler de manière, par exemple, quantitative. Pour certains, ils seront plus sensibles ou moins sensibles, donc éventuellement, peut-être faudrait-il adapter les dosages. Ça peut être quelquefois carrément l'efficacité du médicament qui, dans un certain contexte, peut ne pas être efficace chez une personne. C'est le cas de cancer. Xavier en parlera probablement. Mais aussi, c'est les effets adverses des médicaments. Vous savez que, quelquefois, il peut y avoir des événements dramatiques liés, chez un petit nombre de personnes, mais pour eux, c'est très important, à la prise d'un médicament. Et là aussi, on sait qu'il y a certaines variations génétiques qui vont rendre plus ou moins probable le fait d'être susceptible d'avoir un effet adverse. Voilà. Donc ça, c'est donc juste les maladies monogéniques. Vous savez qu'il y a à peu près 22 000 gènes. Les gènes, si vous voulez, c'est les unités fonctionnelles du génome. Il y a 22 000 gènes qui codent pour des protéines. Il y en a quelques milliers qui codent pour des molécules, des copies de l'ADN qu'on appelle des ARN, dont souvent on ne connaît pas très bien la fonction, donc on ne sait pas très bien leur relation pathologique, sauf quelques exceptions. Sur les 22 000 gènes, il y en a à peu près à l'heure actuelle 4 000, dont on sait que quand ils ont des mutations qui l'empêchent de fonctionner, ça entraîne une de ces maladies à causalité génétique.
et des maladies en général rares, mais c'est quand même 10% des hospitalisations pédiatriques, 20% de la mortalité infantile, mais aussi de nombreuses maladies de l'adulte. Par exemple, il y a des maladies neurodégénératives qui surviennent à 50 ans, des formes précoces de maladies d'Alzheimer survenant à 50 ans, qui sont dues à une lettre qui n'est pas la bonne sur les 6 milliards de lettres de nos deux copies de génome. Mal placé dans un gène particulier, il y a trois gènes particuliers, ça peut entraîner une maladie d'Alzheimer à l'âge de 50 ans, et en plus une forme transmissible à la descendance de maladie d'Alzheimer. Alors, c'est la cause, mais c'est une cause qui peut être 100%. Vous avez la mutation, vous aurez la maladie. Et puis, par exemple, pour les formes de cancer du sein, c'est vous avez la mutation, le risque d'avoir un cancer du sein ou de l'ovaire avant 70 ans pour une femme, ça sera 70 ou 80%, mais pas 100%. Donc là, on va dire qu'il y a une pénétrance incomplète. Et puis, des facteurs environnementaux peuvent modifier quand même le fait que vous allez développer la maladie ou pas. Par exemple, il y a des formes d'hypercholestérolémie familiale, mais leur expression en termes de probabilité d'avoir une maladie coronarienne ou d'avoir un infarctus va dépendre quand même de l'environnement, je dirais, alimentaire, des habitudes alimentaires, etc. Donc voilà. Et puis vous avez les maladies chromosomiques, j'ai déjà parlé de la trisomie 21, mais il y a aussi d'autres anomalies avec des segments. Et puis ces maladies communes multifactorielles, comme j'ai dit, c'est presque toutes les maladies communes ont une part génétique et une part environnementale. Et c'est difficile en fait de dire qu'est-ce qui est le plus important, parce qu'en fait évidemment les deux sont importants. Et je donnerai un exemple d'une maladie dont on pourrait dire qu'elle est complètement environnementale puisque c'est une maladie infectieuse. Vous ne pouvez développer le sida que si vous avez été contaminé par le virus HIV. Le virus HIV, c'est l'environnement, c'est aussi la contamination, c'est le mode de vie, etc. Mais il y a environ, je crois, 1% de la population européenne qui ont une anomalie du génome qui les rendent quasiment résistants au virus HIV et donc au sida. Donc vous voyez que même pour une maladie qu'on pourrait dire complètement environnementale, il y a des gens qui vont être particulièrement sensibles et des gens qui vont être jusqu'à complètement résistants. Et le système, par exemple, HLAC, où il y a une très grande variabilité entre chaque être humain, est impliqué dans la résistance immunitaire, et ça a un intérêt au niveau de la population. Parce que quand il y avait les grandes épidémies de peste, dans la même maison, avec les mêmes rats qui étaient autour, etc., tout le monde ne mourait pas. Heureusement, enfin, sinon on ne serait pas là pour en parler. Et en fait, c'est parce que dans le même environnement, il y a des gens qui vont être plus ou moins sensibles. Mais les gens qui sont résistants à la peste seront peut-être sensibles au choléra. Et voilà. Donc c'était ce que je voulais dire. Et je crois que je vais arrêter les diapositives pour dire maintenant les aspects, puisqu'on est ici. Attendez, je vais essayer. Ah oui, il faut que j'utilise ça pour éteindre. Bon, voilà. Ça. Donc, comment je vois les applications et les problèmes éthiques. Donc, je ne parlerai pas du tout de cancer. Je parlerai surtout de maladies génétiques, un peu de maladies communes. Ça sera vite fait, les maladies communes, parce que pour les maladies communes, je dirais que l'intérêt individuel de connaître son génome est quasi nul. Il y a quelques exceptions où il peut y avoir un certain intérêt, mais d'une manière générale, c'est pour le moment, et je pense pour pas mal d'années à venir,
la génétique va apporter très peu, par exemple, sur le risque de diabète, etc. C'est vrai qu'il y a des facteurs génétiques de risque au diabète, mais leur utilité clinique, leur utilité pour empêcher, par exemple, prévenir le diabète chez une personne, je dirais, pour le moment, est quasi nulle. Donc, pour les maladies à causalité génétique, à l'heure actuelle, grâce aux techniques d'analyse du génome, de séquençage, il faut quand même dire que c'est probablement unique dans l'histoire technologique de l'humanité que en 15 ans, le coût du séquençage d'un génome a été divisé par 3 millions. Parce que le premier séquençage d'un génome humain, c'était 12 ans d'un projet international où simplement aux États-Unis ça a coûté 3 milliards et ça a coûté en France, on a dépensé, en Angleterre, etc. Donc plus de 3 milliards de dollars. Et ça, c'était un projet qui s'est déroulé entre 1990 et 2003. 12 ans, projet international. Maintenant, vous avez des machines qui vous font un génome humain en une nuit pour un coût de consommable de 1000 dollars. Ceci dit, le coût de consommable, ça vous donne la séquence, ça ne vous donne pas l'interprétation. Et en fait, le coût maintenant, ça va devenir celui de l'interprétation et combien vous voulez aller loin dans l'interprétation. Mais disons, vous pouvez avoir votre séquence pour 1000 dollars. Il y a des machines et l'une de ces machines, par exemple, peut en faire 10 000 par an. Donc vous voyez, c'est une révolution technologique extraordinaire. Alors, à quoi ça sert pour ces maladies à causalité génétique? Eh bien, ça sert d'abord à faire un diagnostic précis, à savoir, d'abord, devant, par exemple, un enfant qui a une déficience intellectuelle, un enfant qui a une épilepsie sévère. Est-ce que c'est génétique ou est-ce que c'est peut-être autre chose, par exemple environnemental par une lésion infectieuse, un médicament, que sais-je. Si c'est génétique, est-ce qu'il y a un risque de récurrence dans la famille? Parce que dès que vous avez une famille où vous avez un enfant qui a un gros problème de santé, la question que se pose la famille, c'est est-ce que c'est le premier et qu'on peut y en avoir un deuxième? Et c'est pas simplement le couple initial qui va se poser la question. C'est le frère ou la sœur, s'il est en âge de procréer, mon frère avait telle ou telle maladie, est-ce que, par hasard, moi je suis aussi susceptible d'avoir un enfant qui a cette maladie? Et par exemple, pour des maladies comme la myopathie de Duchenne, une sœur apparemment saine, ou en tout cas, oui, une sœur saine, qui n'a pas la maladie d'un enfant atteint, en général a un risque sur deux d'être transmettrice de la mutation à ses garçons. Donc, si vous voulez, cette histoire du risque de récurrence, c'est une question majeure pour les familles. La seule manière d'y répondre, c'est de savoir est-ce que c'est génétique et dans quel gène et quelle mutation. Ensuite, ceci permet aussi, et là on rentre dans des aspects éthiques qui sont difficiles, si c'est une maladie très sévère, la loi en France et dans beaucoup d'autres pays autorise le recours au diagnostic prénatal. Et donc, c'est vrai, à la terminaison de la grossesse d'un enfant qui aurait cette maladie particulièrement sévère, pardon. Alors, dans la loi française, il n'y a pas de liste de maladies particulièrement sévères parce que ça serait une liste impossible à faire.
mais on demande que l'évaluation de cette sévérité, de la non-possibilité d'intervention médicale efficace, soit évaluée à la demande des parents prospectifs par un comité multidisciplinaire. Mais on ne peut pas faire de diagnostic prénatal si on ne sait pas exactement quelle est la mutation qui est responsable de la maladie. Donc, ça c'est une deuxième chose. Et aussi, cette histoire de donner un nom à la maladie. Moi, je travaille beaucoup sur la déficience intellectuelle qui peut s'accompagner aussi de troubles du comportement, d'autisme. Et il y a une grande anxiété de la part des parents et notamment des mères. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui est responsable de ça? Et il faut dire que en France, notamment, une certaine psychanalyse, à un moment, a bien enfoncé le clou pour l'autisme, les mères frigides qui sont responsables de l'autisme de l'enfant. Et c'était assez catastrophique. Donc, si vous voulez, c'était est-ce que c'est parce que j'ai pris un verre de champagne alors que j'étais enceinte que mon enfant, etc. Donc, si vous voulez se répondre à non, voilà, c'est on a trouvé la cause, c'est important. Et puis ensuite, ça peut permettre aussi de prévoir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que la maladie va rester stable, s'aggraver? Est-ce qu'il y a d'autres choses à craindre? Est-ce qu'il y a aussi des moyens médicaux, des prises en charge qui permettent de retarder ou, dans certains cas trop rares, de traiter la maladie? Pour ça, il faut un diagnostic précis. Alors, je dirais, ça c'est des applications diagnostic que, je dirais, personne ne met en doute, il reste encore un problème d'accessibilité, c'est-à-dire que, selon les pays, et en France on a été un peu lent, ça se met en place, etc., mais il y a encore des difficultés économiques à pouvoir répondre en temps et en heure à la demande de parents qui ont des enfants avec des formes. Donc ça, je dirais que c'est des choses qui ne posent pas, j'allais dire, de problèmes éthiques particuliers, parce que c'est répondre à une demande diagnostique tout à fait justifiée. Le problème éthique, il peut se situer, je dirais, au niveau effectivement du diagnostic prénatal. Et où est-ce qu'on met la limite d'une maladie particulièrement sévère? Est-ce qu'une surdité congénitale justifie ou ne justifie pas un recours au diagnostic prénatal? Je dirais que la réponse va être très différente selon les couples, et ça c'est une discussion difficile. L'autre chose, c'est pour les maladies à causalité génétique, mais qui débute plus tardivement. C'est la question du diagnostic présymptomatique. Par exemple, la maladie de Huntington, qui est une maladie absolument tragique, commence en général vers l'âge de entre 35 et 45 ans, avec une perte du contrôle des mouvements, une démence progressive, ça dure 15 ans, c'est une maladie atroce, et d'autant plus atroce que la personne atteinte, ces enfants auront un risque de 1 sur 2 de développer la même maladie, et ils auront eu le temps de voir ce que cette maladie fait sur leurs parents atteints. Maintenant, on connaît la mutation responsable de la maladie de Huntington. Le test est très simple. Mais est-ce que il faut le faire alors qu'on n'a aucun moyen pour le moment de même ralentir l'apparition de la maladie? Ce sera une information. Et bien là, dans la plupart des pays, on a dit que un tel test prédictif présymptomatique ne peut être réalisé qu'à la demande de la personne à risque elle-même, dûment informée de la maladie et de ce risque, et que ce n'est pas son médecin qui peut le faire pour elle, c'est même pas son conjoint, c'est certainement pas ses parents. On ne va pas le faire pour des enfants, même si c'est vrai que les parents voudraient savoir, en fait, ce qu'ils voudraient savoir, c'est que leur enfant n'a pas hérité. Mais faire le test, c'est savoir qu'il n'a pas hérité ou savoir qu'il a hérité. Et on se dit que ça n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, en tout cas il n'a pas pu l'exprimer, de savoir, quand il a 10 ans, qu'à l'âge de 40 ou 45 ans, il va développer cette maladie. Donc ça, c'est un deuxième problème. Alors, je vais parler maintenant de deux aspects qui, eux, posent plus de problèmes. Alors, le premier, c'est... oui, 5 minutes, voilà, donc je vais terminer. C'est un problème qui a commencé à se poser par l'utilisation diagnostique pour des enfants suspects de maladies génétiques rares, et où le plus simple, le plus efficace pour trouver éventuellement la mutation, c'est de séquencer tous les gènes, ce qu'on appelle le séquençage d'exome, les 20 000 gènes. Parce que c'est la manière la plus sûre, s'il y a une mutation, de trouver celle qui est responsable, par exemple, de la déficience mentale de cet enfant. Sauf que dans ces autres, dans les 20 000 gènes, il y a aussi des gènes qui sont associés à des maladies cardiaques de l'adulte, à des maladies génétiques, hein, à des maladies neurodégénératives, à des cancers héréditaires. Et donc la question, c'est si on a fait ce séquençage des 20 000 gènes pour un diagnostic de déficience intellectuelle, est-ce qu'il faut aller regarder les autres gènes? Et si on trouve quelque chose dans les autres gènes, est-ce qu'il faut le dire ou pas? Et là, il y avait, les généticiens avaient beaucoup de discussions là-dessus. Ceci dit, quand vous allez chez votre radiologue parce que vous toussez beaucoup et que on vous prescrit une radio des poumons pour voir si vous avez un début de pneumonie, etc., et qu'il vous trouve une ostéoporose. C'est pas ce que vous aviez demandé. Vous êtes venu parce que vous toussez. Est-ce que le radiologue va dire « j'ai vu une ostéoporose, mais je vais pas lui dire parce que il vient pour un problème de tout ». En fait, probablement, le radiologue va dire. Mais les généticiens se disent c'est plus compliqué, puis ça va arriver plus tard, etc. Donc est-ce qu'on... Et je vais vous donner par exemple l'exemple. Je reprends cet enfant avec une déficience mentale. On trouve, on ne trouve pas la mutation qui est responsable de cette déficience, mais si on a regardé, on trouve qu'il a une mutation dans le gène BRCA1 de prédisposition au cancer du sein. De prédisposition importante, risque de 80%, cancer du sein et de l'ovaire. C'est un garçon, en fait, son risque de cancer du sein est extrêmement faible, même s'il a une mutation BRCA1. Ça existe, mais c'est extrêmement faible. Par contre, s'il a une mutation BRCA1, ça lui vient, très probablement, d'un de ses parents. Peut-être de sa mère. Et donc, finalement, c'est une information qui peut intéresser sa mère. Par exemple... Pour éviter le cancer de l'ovaire, on prescrit de faire une ovariectomie à 40 ans, c'est-à-dire quand la mère a à peu près terminé sa période reproductrice, de faire une ovariectomie, annule le risque de cancer de l'ovaire et diminue par un facteur de 2 le risque de faire un cancer du sein. Donc c'est dans l'intérêt de la mère. Mais finalement, on a fait un test diagnostique sur le retard mental chez un garçon. Est-ce qu'il faut avertir la mère de ce qu'elle n'a pas cherché, de ce qu'elle n'a pas demandé? Alors, les Américains se sont beaucoup posé la question, dire ou ne pas dire, et finalement, ils sont tombés sur une liste, qui pourra évoluer, de 56 gènes, où ils disent que quand il y a une mutation dans un de ces 56 gènes, il y a un risque très important de développer une maladie cardiaque, un cancer, etc., et on peut faire quelque chose. ce qu'il dit, c'est des gènes actionnables. C'est-à-dire, c'est pas comme Huntington. Huntington, vous trouvez la mutation, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de dire, voilà, vous allez développer à 40, 45, on ne sait pas exactement à quel âge, vous allez développer la maladie. Mais il n'y a pas d'action préventive possible. Si vous avez un gène qui va entraîner une arythmie cardiaque, il y a des choses à faire. Si vous avez une mutation dans le gène BRCA1, il y a des choses à faire. Et donc, ce qu'il propose, c'est que pour ces gènes actionnables, si on a fait un exome, et si la personne a accepté qu'on l'informe, ou a demandé qu'on l'informe, c'est justifié d'informer. Donc, vous voyez, c'est déjà cette discussion éthique, savoir, ne pas savoir. Et puis, et je vais terminer une minute, c'est une chose qui est encore plus, je dirais, sujette à discussion, mais je pense qu'il faut en discuter. Chacun d'entre nous sommes porteurs d'environ 5 à 10 mutations associées à ce qu'on appelle des maladies récessives, qui peuvent être des maladies souvent très graves, la mucoviscidose est un exemple, ces maladies récessives surviennent chez un enfant quand il a reçu de chacun des parents une copie altérée du gène. Donc il faut que chacun des parents soit porteur sain, donc on ne sait pas du tout. À l'heure actuelle, depuis environ une vingtaine d'années, dans certains pays et pour certaines maladies, il y a des programmes de dépistage dans la population générale des porteurs de mutations de ces maladies récessives pour certaines mutations particulièrement fréquentes dans ces populations. Il s'agit d'une maladie de l'hémoglobine dans les pays méditerranéens comme l'Italie du Sud, la Grèce, Chypre, etc. Ou de certaines maladies plus fréquentes chez les juifs ashkénazes telles que la maladie de Tay-Sachs, mais il y en a bien d'autres, il y en a une vingtaine d'autres, et où on propose, dans la population concernée, de tester systématiquement. Ça s'est étendu aux États-Unis, en Israël et dans quelques autres pays, à proposer, j'allais dire, avait obligation de proposer à une femme qui a un projet d'enfant ou qui est enceinte, le dépistage de la mucoviscidose. Est-ce qu'elle est porteuse de la mucoviscidose? Si elle est porteuse, on propose de tester le conjoint. Donc, dépistage généralisé, il n'est pas fait chez tout le monde, mais il doit être proposé à tout le monde, parce que si une femme a un enfant avec mucoviscidose et qu'on ne lui a pas proposé, elle pourrait se retourner contre le médecin. Il ne m'a pas dit que j'aurais pu faire un test. En France, le Comité national d'éthique a deux reprises a émis un avis défavorable au test systématique dans la population générale pour la mucoviscidose. Et maintenant, avec le séquençage à haut débit, c'est plus juste la mucoviscidose qu'on pourrait faire. C'est en fait les 1000 maladies récessives pédiatriques graves pour détecter dans la population générale des couples à risque, mais qui ne se savaient pas à risque, d'avoir des enfants atteints. Et donc, la question, c'est effectivement, est-ce que c'est quelque chose qui est un eugénisme débridé et qu'il faut interdire? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut laisser au choix des personnes, mais qu'elles prennent en charge les coûts eux-mêmes? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait proposer, mais prise en charge par l'assurance maladie? Et ma question, ce que je pose souvent, c'est que par exemple en France, on juge complètement éthique, dans une famille où il y a déjà un enfant avec mucoviscidose, de faire le test des porteurs sains dans la famille pour éviter ou pour les prévenir la naissance d'un deuxième enfant atteint. Et je pose la question qui est de manière brutale, mais je pense qu'il faut en discuter. Est-ce que il est plus éthique d'empêcher de prévenir la naissance d'un deuxième enfant atteint de mucoviscidose que d'un premier. Quelle est la différence éthique, si vous voulez, entre la prévention du deuxième et la prévention du premier? Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. J'étais un peu trop long, mais merci.
Mais merci beaucoup Jean-Louis. Il fallait effectivement rentrer dans le détail parce que vous avez vu la complexité de la situation. Et toutes les questions éthiques que pose Jean-Louis et les autres questions, on les abordera après la présentation de Xavier Jeunemaître, qui est lui aussi professeur de génétique à l'hôpital européen Georges Pompidou, lui aussi responsable d'un laboratoire de recherche et qui travaille plus spécifiquement sur les maladies cardiovasculaires, avec à la fois d'ailleurs certains cancers rares mais qui sont responsables de formes particulièrement graves d'hypertension artérielle. Et Xavier, tu as la parole.
10 minutes. Non. J'ai 10 minutes pour répondre à Jean-Louis, je le sais, c'est un débat inéquitable, mais c'est comme ça.
Tu non. N'es pas récessif, mais tu n'es pas de million
d'autres. Merci beaucoup de cette invitation. En fait, j'ai relu le titre, qui est intéressant, parce que faut-il connaître ses gènes pour maîtriser sa santé? Ça part du principe que, un, on pourrait connaître ses gènes, et on va voir, on a déjà vu avec Jean-Louis Mandel, j'ai essayé de faire un petit peu complémentaire par rapport à ce qu'il a dit, que ce n'est pas forcément tout à fait vrai pour le moment, et ça part du prérequis qu'il faut maîtriser sa santé. Ça peut être discutable. La connaissance des gènes. Donc, Jean-Louis Mandel vous en a parlé très bien, en disant qu'on avait 22 000 gènes avec une structuration qui est maintenant très très bien connue à 99,9%. Un des points que je voudrais vous montrer sur cette diapositive qui est un petit peu compliqué, c'est le fait que nous sommes tous des gènes, des génomes anormaux. Il n'y a pas de gène normal. Il n'y a pas de génome normal. Nous sommes tous sources de variations génétiques, c'est ce qu'a dit Jean-Louis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'entre nous, il y a environ 3 millions de variations génétiques et que celles-ci sont complexes. Et ici, sur cet profil omique de Michael Snyder, c'était simplement pour vous montrer, donc c'est un chercheur qui a fait son profil, je dirais, de médecine personnalisée complexe. Il a non seulement regardé l'ensemble de son génome, mais il a essayé de regarder au-delà du génome, les transcrits du génome, les transcrits des gènes, au-delà des transcrits des gènes, éventuellement les protéines, leur expression, donc des milliers de protéines encore plus complexes que le génome elle-même, et au-delà de cela, on peut aller encore à du métabolome et autre chose comme ça. Donc sur ce que vous avez là, et vous avez un cercle avec les chromosomes 1, 2, 3, 4, 5, etc., vous voyez, vous ne voyez pas, mais croyez-moi sur parole, qu'il y a beaucoup de variations génétiques, non seulement ponctuelles d'une lettre, mais beaucoup de réarrangements. On a tous des duplications, des délétions de gènes, qui font en sorte que nous sommes tous des individus uniques. J'ai 50% de gènes communs avec mon frère ou ma sœur, mais ce n'est pas forcément les mêmes, et on a de ce fait-là une combinaison tout à fait unique. Et donc, c'est toute la problématique de la médecine génomique, voire de la médecine personnalisée. Comment on peut, à partir de cette information, essayer d'aller vers des traitements qui soient plus sophistiqués, plus individuels que ceux que nous avons eus au cours de nos éducations médicales, qui veut qu'on a essentiellement parlé d'épidémiologie et de grandes populations. Un point qui est, Pierre disait tout à l'heure, médecine personnalisée, ça fait bien bien longtemps et des siècles que les médecins essaient de personnaliser leur médecine. Un point qui est essentiel actuellement, c'est réellement la conjonction temporelle de modifications technologiques majeures, d'une part en biologie, et grâce à l'électronique, on a maintenant des puces ADN qui permettent effectivement de génotyper, donc de caractériser plusieurs centaines de milliers, voire de millions de polymorphismes en un seul temps, et en même temps, tout ce qui est l'informatique. On a des données évidemment énormes qui sortent des génomes, et ces données énormes, elles peuvent être traitées grâce à l'informatique, et grâce à des capacités aussi de connexion. Donc, il y a cette cristallisation véritable entre, d'une part, la possibilité technique d'avoir énormément d'informations, et d'autre part, la possibilité informatique, ou technique également, de traiter cette information. Si l'un n'est pas là, l'autre n'est pas là. Et donc, on voit bien que il y a de ce fait-là des grands programmes de génome ou d'identification du génome ou d'étude du génome qui ont été faits dans les dernières années, dont a parlé rapidement Pierre tout à l'heure, pour dire que effectivement on va essayer d'avancer. Car ce qu'on voit pour M. Snyder ici, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour vous. Et donc on va essayer de caractériser, non pas les gènes, connaître ces gènes, c'est connaître ces variations de gènes. Car après tout, le fait que j'ai un gène du collagène, vous avez aussi un gène du collagène. Ce qui est intéressant, c'est quelles sont mes variations sur ce gène-là. Et est-ce que ces variations-là vont pouvoir, en quoi que ce soit, prédire mon futur, diagnostiquer une maladie, ou éventuellement donner un pronostic à cette maladie. Et donc c'est autour de ces variations que sont axés les grands projets internationaux actuels. Il y a des consortiums, il y a un consortium international de Genome Project qui font en sorte de regarder au niveau anglais, au niveau américain, différentes initiatives, 100 000, 200 000, 1 million de personnes, pour essayer de regarder l'ensemble de leurs variations et de les associer, ces variations, à ce qui peut être des variations aussi dans leur phénotype, c'est-à-dire dans leurs traits eux-mêmes. Donc, énormément d'argent a été mis, et en France, il a été, sous l'égide de l'INSERM et d'Avizan, proposé au Premier ministre un plan génome 2020-2025 pour faire en sorte de mettre en place, dans les 5 ans qui viennent, des plateformes technologiques de génomique pour le soin, initialement dans des études pilotes sur le cancer, des maladies rares et une maladie commune, mais ensuite pour toute personne qui nécessiterait, qui aurait une indication à avoir son génome complet analysé. Alors vous voyez que déjà, on va avoir le problème de l'indication. À qui va-t-on faire un génome complet ? Actuellement, dans nos laboratoires, nous faisons des tests génétiques qu'on va dire ciblés, avec ces nouvelles technologies de séquençage en masse, pour ici, une déficience mentale, là une maladie vasculaire caractérisée, a priori familiale, pour laquelle on peut prédire éventuellement quels sont les gènes connus. On a maintenant quelques milliers de gènes connus, quelques milliers de maladies associées à des gènes connus, donc on va pouvoir les tester de façon ciblée. Et comme le disait Jean-Louis Mandel tout à l'heure, on va pouvoir élargir au fur et à mesure de ces gammes technologiques au génome entier et avec la problématique d'interprétation. Car ce qu'il a éludé tout à l'heure, c'est de dire, grâce au séquençage, grâce au test génétique, je vous donne la mutation. Ne le croyez pas. D'une part, il va vous donner beaucoup de mutations, beaucoup de variants, et il ne saura pas quoi en faire. Car notre défi actuel, c'est qu'ayant chacun d'entre nous des milliers de variations génétiques, il y a de très fortes chances qu'effectivement, je me trouve une mutation, ou ce qu'on appelle des variants de signification inconnue, dont on est bien incapable actuellement de savoir si effectivement il est ou non de prédisposition à la pathologie. Donc on a des vraies difficultés actuellement, évidemment il y a des mutations tout à fait caractéristiques pour lesquelles on a des vraies certitudes, mais on a un grand nombre de variants présents chez chacun d'entre nous pour lesquels il y a des réelles incertitudes. Ça veut dire que les tests de prédiction que nous allons faire, ils vont être entachés possiblement d'une probabilistique sur laquelle on va être très gêné d'interprétation. Donc quand on va vouloir faire demain, et ça va venir, des génomes entiers à toute la population, ça veut dire que derrière l'information que nous allons délivrer à toute cette population, elle va être d'une part techniquement pas toujours valide, deuxièmement sur le plan d'interprétation, difficile parce que on n'aura pas forcément le prérequis de sur quel type de population elle a été associée. Parenthèse, on fait actuellement depuis une quinzaine d'années beaucoup d'études d'association qu'on dit pangénomie, c'est-à-dire l'ensemble du génome, pour des maladies communes. Le diabète, l'hypertension artérielle, etc. Et on va décrire qu'il y a, ou la taille, un trait phénotypique comme ça, et on va dire qu'il y a 100, 200, 300 portions chromosomiques ou gènes que l'on connaît comme associés avec des très faibles effets. Toutes ces études-là, pour la plupart d'entre elles, elles sont faites chez des sujets européens, qu'on dit caucasiens à tort, mais on va dire d'origine européenne, la plupart d'entre nous ici. La transposition de ces résultats à des sujets d'origine africaine, à des sujets d'origine asiatique, à des sujets mixés, elle est évidemment beaucoup plus difficile, car l'effet que nous allons avoir de chacun des variants génétiques, il est fonction de ce background complet. Enfin, pour rester par rapport à ça, il aura d'autant plus de mal, Jean-Louis, à vous donner un résultat, qu'en plus du génome nucléaire, on a un génome mitochondrial, hérité de notre maman le plus souvent, qui lui-même contient un certain nombre de gènes et lui-même peut avoir des effets quand il est muté. Et enfin, il y a ce qu'on appelle un épigénome. C'est-à-dire que M. Lamarck revient en force et l'environnement peut poser des marques sur notre génome. Et ces marques sont transmissibles. C'est-à-dire que je n'ai pas de mutation, mais j'ai des portions du génome qui sont sensibles à un environnement de stress majeur, alimentaire ou autre, qui font en sorte que l'expression de tel gène va être plus ou moins modifiée. Donc on arrive là à une complexité du vivant, que nous vivons tous, sur lequel la médecine génomique n'a pas de réponse blanc-noir. C'est forcément des réponses complexes. Et alors vous allez me dire, mais demain je vais voir mon docteur, je me suis fait 23andMe, qui m'a envoyé tout un tas de résultats, et moi ça m'arrive en consultation, les gens viennent, j'ai fait un exome docteur, pourriez-vous me l'interpréter? Je dis, repartez d'où vous êtes, dehors Satan, car la complexité derrière, évidemment, va réellement poser problème. Donc, en dehors des variants sur lesquels je vais pouvoir éventuellement avoir une opinion forte, le reste sera vraiment très difficile en termes d'interprétation. Alors, je voulais vous donner quelques aspects, je vais passer ça, mais parce que on rentre dans une partie tellement technologique qui devient de plus en plus amusante. Vous avez des effets de mode. Là, vous avez le génome ici, au milieu. Mais vous voyez que le génome, notre génome, avec ses variations, n'est qu'une petite partie de notre personome. C'est-à-dire, nous sommes des personnes, des individus, qui ne peuvent pas être réduites à l'individu biologique. Nous sommes des individus, on ne va pas reprendre Kant, etc., mais on est loin d'être des individus uniquement biologiques. Mais même si on ne prend que la biologie elle-même est extrêmement complexe, parce que c'est le gène qui lui-même peut avoir plusieurs transcrits, il en a plusieurs transcrits, la protéine qui décide de ça va être modifiée dans sa conformation à travers d'autres gènes, elle va entraîner des métabolites qui eux-mêmes peuvent avoir leur profil. Les bactéries que vous avez en vous peuvent modifier aussi le profil de votre, non pas de votre génome, mais en tout cas de votre phénotype, par exemple cardiovasculaire. Et on va parler, pour ceux qui aiment bien les mots, d'exposome, c'est-à-dire tous les facteurs environnementaux qui vont faire en sorte de modifier votre être, votre présentation à la santé. Donc on a de cette façon-là une énorme complexité. Et le génome, vous voyez, n'est qu'une petite partie de cette complexité. Donc, de façon populationnelle, je ne parle pas des maladies rares dont a parlé Jean-Louis Mandel, mais de façon populationnelle, en grand, on aura des explications extrêmement limitées par le génome par rapport à notre santé elle-même. Donc, faut-il connaître ces gènes dans la population pour maîtriser sa santé? La question, vous voyez, n'est pas simple. Alors, je voulais avoir deux, trois éléments de réflexion ensuite éthique que je voulais voir avec vous. À l'évidence, cette médecine génomique pose de problèmes de la collectivité par rapport à l'individu. Il y a un premier paradoxe qui fait que la médecine génomique, elle se base sur des résultats obtenus sur des grands nombres, 100 000, 200 000 personnes et leurs variations et leur association avec des traits. Et ensuite, on voudrait l'appliquer à vous, en vous disant, vous avez le profil des 2, 3, 5, 10 variations génétiques qui font en sorte que si on les combine, elle s'associe à, ici, une élévation de pression artérielle, etc. Or, réduire l'information des 2, 3, 5, 10 variations, alors que vous savez que vous en avez 3, 5 millions qui sont derrière, à l'évidence, c'est une réduction qui souvent est fausse. La deuxième chose, on va arriver à ce que, auparavant, on avait de l'épidémiologie, des grandes populations, on faisait des grands essais thérapeutiques. J'ai été éduqué par Pierre Corvol, donc je le sais, on faisait des grands, et il m'apprenait ça, il y avait des grandes études qui, et alors on faisait le traitement A versus le traitement B, moins 10 mm de pression artérielle, il fallait que tout le monde ait le traitement A ou le traitement B. Et là, à l'inverse, on dit, ceux qui étaient en échec, c'est parce qu'ils avaient éventuellement le profil génétique A, B, C, D ou D. Et donc on va vers l'individualisation versus la collectivité. comment cette individuation biologique, cette sous-stratification des personnes peut être réellement optimale. On aimerait bien que, en fonction de notre profil biologique, on puisse avoir la médecine la plus cohérente possible par rapport à ce que l'on est. Ça signifie que si moi on me dit présymptomatique, j'ai le profil génétique de risque d'infarctus du myocarde. Est-ce que demain, parce que évidemment toutes ces informations sont connectées et informatisées, est-ce que demain il faut que mon assurance sache que je ne fume pas, que je ne prends pas 5 kilos de plus pour faire en sorte que ma prime reste à 100 et pas à 110 ou 120? Est-ce que la responsabilisation des individus en fonction de leur profil génétique, mais demain d'un profil plus grave, plus large, est nécessaire, est utile, est éthique? C'est vraiment des questions qui se posent vraiment. Alors, j'ai été si j'ai encore 5 minutes, Pierre, j'ai été intéressé, parce que j'ai lu un peu sur différents sujets autour de la médecine personnalisée, par quelquefois des aspects pharmacogénétiques tout à fait surprenants. Alors, comme l'a dit Jean-Louis Mandel tout à l'heure, on peut avoir des sensibilisés à certains médicaments qui sont plus importantes que d'autres. Parce qu'on a un profil, par exemple, vous savez probablement que les Asiatiques, ils sont en majorité relativement sensibles à l'alcool, parce qu'ils ont un polymorphisme génétique sur l'alcool déshydrogénase, qui font que quand vous buvez un verre de vin et que vous avez un taux d'alcoolémie à 0,2, eux, ils vont avoir 0,3 dans la demi-heure suivante. Donc, ils vont avoir un flush que vous ne l'avez pas. C'est bien pour arrêter de boire, mais pour eux, ce n'est pas très pratique. Et de ce fait-là, on peut avoir des polymorphismes de sensibilité à des facteurs extérieurs. C'est vrai pour les anticoagulants, etc. Et vous pouvez réellement avoir un impact tout à fait correct par rapport à ça. À l'inverse, vous pouvez imaginer d'avoir une nouvelle racialisation de nos populations. C'est-à-dire qu'on va dire, les Noirs, ils ont plus souvent le polymorphisme un tel ou un tel. Une des grandes découvertes de Greg Venter, ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y a pas de race. Parce que nous sommes tous des variations génétiques très importantes. Et il y a une seule race humaine et il y a plusieurs groupes ethniques. Et ces groupes ethniques, ils sont plus ou moins homogènes avec, par l'histoire du génome, des fréquences de mutation, des fréquences de polymorphisme qui vont être différentes. N'empêche que, il y a effectivement, si je compare les Japonais, les Africains sont très hétérogènes, ou bien les Suédois, des variations génétiques de fréquences très différentes qui font que certains vont être sensibles ou pas à tel médicament. Et j'étais très surpris de voir que la FDA, en 2005, a approuvé un médicament, un couple de médicaments que connaît bien Pierre aussi, c'est les dérivés nitrés associés à dihydropyridine. Je te le confie, c'est le Bidil. Faut que ça se vende quand même. C'est uniquement prescrit chez les Noirs américains. Tout ça parce que l'essai initialement de ce médicament-là a été fait chez les Noirs américains. Et on se dit, comme ça n'a pas été validé chez les White Americans, on le valide uniquement chez ceux-là. Et on a maintenant un médicament pour l'insuffisance cardiaque aux États-Unis, uniquement chez les Noirs. On marche sur la tête. Dernier point que je voulais voir avec vous, peut-être sur cette responsabilité de la santé, c'est, à mon sens, en partie une remise en cause de la dimension de solidarité de la société. On peut arriver, dans ce domaine-là, à ce qu'on ait réellement un problème, me semble-t-il. Droit à l'information, droit de savoir, pas de savoir, on l'a vu avec Jean-Louis, je pense que ça vaudra vraiment la peine d'en rediscuter parce que je ne sais pas ce qu'est qu'un consentement éclairé, informé pour du génome entier, quand les personnes ne savent même pas ce que c'est qu'un génome, et donc derrière, et ce qu'on en peut en retirer comme information, et derrière, toute la problématique des couples, des cartes génétiques qui vont arriver, et des maladies récessives, on va vous imposer éventuellement de connaître, parce que vous aurez votre carte génétique, peut-être pas notre génération, mais la génération qui suit, sûr. Donc, parce que technologiquement, il y a l'industrie derrière. Il y a l'industrie du génome, et c'est intéressant de faire de l'industrie de ce type-là. Et donc, à partir du moment où il y a cela, il y aura des cartographies pour tout le monde. Si cette cartographie pour tout le monde, l'information existe, si l'information existe, elle sera utilisée. L'éthique derrière vient toujours derrière la technique. L'éthique s'adapte à la technique. Elle n'est pas première, malheureusement, c'est plus souvent. Donc là aussi, il y aura vraiment des éléments à discuter. Dernier point, on parle maintenant de biocapital. Le biocapital, c'est le consumérisme en santé. C'est de faire en sorte de réellement faire le lien entre les médecins ou le corps scientifique qui recherche lui-même de plus en plus d'éléments techniques autour des sciences de la vie et les industries pharmaceutiques qui cherchent de plus en plus d'éléments pour faire en sorte d'avoir des médicaments pointus vis-à-vis de la problématique de santé. Et de l'autre côté, un régime économique que nous connaissons tous, qui est essentiellement déterminé par le marché. Et donc, il faut pouvoir produire du génome. Ne vous posez pas la question de savoir s'il y en a besoin, il faut pouvoir le produire. Donc là aussi, il y a une réflexion peut-être qui est intéressante. Et il y a, depuis quelques années, un truc qui est assez à la mode sur la formule des 4 P. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un biologiste américain du nom de Hood qui dit la santé et la future de la santé, c'est les 4 P, c'est personnalisé, prédictive, préventive et participative. Et à chaque fois, ça peut être vu à la fois sur le plan tout à fait louable, ou au contraire avec un effet adverse, et on pourra peut-être en parler. Je ne vous ai pas parlé de cancer, alors que c'était mon sujet, mais on peut en parler au cours de la discussion. Voilà.
Merci à tous les deux. Merci Xavier. Écoutez, nous avons une demi-heure, une bonne demi-heure pour avoir un feu roulant de questions. Vous avez les bases. Je crois que juste avant qu'on ne débute, le point important, c'est d'avoir les bases. Parce que je souscris tout à fait à ce qu'a dit Xavier. Il va y avoir à l'heure actuelle une déferlante, en quelque sorte, sur la médecine personnalisée, les cellules souches, etc. Vous avez vu hier peut-être dans Le Monde l'exploitation d'un certain nombre de sociétés des cellules souches. Ce sera pareil avec le génome. C'est déjà pareil avec le génome, les données génomiques, j'y ai fait allusion. Et l'un des points importants, c'est d'avoir une information suffisante. C'est d'ailleurs intéressant que Francis Collins, qui est un grand généticien, qui est le directeur du National Institute of Health, qui au passage a découvert en 89 le gène CFTR responsable de la mucoviscidose, dans les leçons qu'il tire de l'histoire du génome, met en avant l'importance pour le public, mais aussi pour les autorités de santé, pour les politiques et ceux qui décident, en fin de compte, de connaître ce type d'information. Ça va au-delà du génome, ça va aussi de la compréhension de ce qu'est, je dirais, un risque, de la probabilité que l'on peut avoir, ce que c'est qu'un risque individuel, un risque absolu, je ne rentre pas dans le détail. Mais on ne peut pas aborder ces sujets-là sans un minimum de formation suffisante. Donc je suis content que ce soir il y ait un petit noyau, au moins qu'il l'ait, en tout cas qu'il devrait l'avoir. Voilà, donc quelles sont les questions? Merci Bruno, tu fais passer le micro.
Oui. Alors, c'est toi qui dis dans quel ordre?
Il y a une question là, une question derrière pour... ensuite derrière madame...
Alors bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Alors j'étais très heureux parce que on a parlé de l'imagerie médicale et ça tombe bien parce que moi je fais une thèse d'éthique médicale sur l'imagerie médicale et tout particulièrement sur les découvertes fortuites en imagerie médicale. Et alors l'exemple qui a été donné était finalement assez facile vu qu'on parlait d'ostéoporose, mais moi je me pose la question de toutes ces découvertes fortuites que l'on peut faire et voilà, ça va être des incidentalomes entre autres où il y a 1% ou 0,1% de chance que, ou de malchance que ça devienne malheureusement cancéreux. Et dans ce cas, on voit bien qu'on est face à une incertitude, et une incertitude qu'il est toujours très difficile de résoudre, et ça va aussi bien toucher la génétique dans son domaine que l'imagerie médicale dans son domaine propre. D'autant plus que j'imagine que si on met ensemble et la génétique et l'imagerie médicale, plus quelques autres spécialités médicales, on peut réussir à mettre 100% des personnes qui sont dans cette pièce comme étant des personnes malades, ou tout du moins touché par quelque chose. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, quelle va être la bonne santé, ou en tout cas, quelle définition pourra donner la santé et qui sera en bonne santé? Merci.
Je crois que le docteur Knock avait déjà répondu à cette question il y a 50 ans en disant « toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore ». Et nous finirons tous par être malades, nous avons été malades, nous aurons, et nous, à moins que Laurent Alexandre ait raison, mais je ne le pense pas, il part de la mort, nous finirons quand même d'une certaine manière. Bon. Alors, ce que vous posez revient effectivement à cette question aussi, ne dire ou ne pas dire ce qu'on voit, et la question c'est, est-ce qu'on connaît la signification? Et est-ce qu'on a une estimation sur la gravité? Mais là, ça devient un problème, et on a ça en génétique, par exemple. Je vous avais dit qu'il y a des maladies qui sont très génétiques, où si on trouve, on sait qu'il va y avoir, dans 100% des cas, un résultat, enfin une maladie sévère. Mais par exemple, en ce qui concerne l'autisme ou la schizophrénie, on a maintenant des anomalies génétiques, ou des variations génétiques, qui augmente de 10 fois le risque. Et donc on passe, par exemple le risque de schizophrénie est estimé dans la population générale à 1%. Je trouvais que c'était un peu... Je ne savais pas qu'il y avait autant de schizophrènes, mais enfin bon, disons 1%. Multiplié par 10, ça fait 10%. Qu'est-ce que ça a comme signification? Pour une personne, je dirais, qui est déjà... né, si par hasard on lui donne cette information, probablement ça n'a aucune signification, même de 1 à 10 ça n'a pas. Mais si on fait ça, par exemple on fait une analyse du génome parce qu'il y avait un retard de croissance, on fait une analyse du génome disons dans 2-3 ans, on trouve une de ces variations, est-ce qu'il faut dire aux parents, votre enfant a 10% de risque? Est-ce que 10% de risque, mais ou est-ce que 20%, ou ça ne devient sérieux qu'à 40%, c'est tout un problème et difficile. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse. Mais la première chose à faire, c'est quand même de savoir effectivement d'avoir des résultats scientifiques qui permettent d'estimer est-ce que c'est vraiment mauvais ou pas. Et puis ensuite, effectivement, d'avoir au niveau à la fois des professionnels, mais aussi du grand public, qu'est-ce qu'on pense au tenté sur ce qu'il faudrait dire ou pas dire. Mais là aussi, l'aspect actionnable, je pense, c'est dire est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être potentiellement dangereux, mais où on pourrait faire quelque chose, et à ce moment-là, peut-être que dans 2 ans, il faut revoir, dans 3 ans, il faut revoir, parce que on pourrait faire quelque chose si c'est un cancer, par exemple. Donc, je crois que c'est au cas par cas. Il faut avoir des bonnes données. Et je reviendrai... C'est vrai que le génome, c'est très compliqué. C'est vrai que pour plein de choses, ça ne sert à rien. Et donc, le problème des gens qui viennent chez toi en disant « J'ai fait mon exome, interprétez-le-moi », c'est parce qu'ils n'avaient pas de questions qui se posaient. Quand il y a une question « J'ai une maladie cardiaque, une cardiomyopathie, est-ce que dans mon génome... il y a l'explication de cette cardiomyopathie, et est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque de transmission, etc. Là, on peut répondre. Mais si on n'a pas de questions, ça devient très difficile. Mais si on revient à ces gènes actionnables, un collègue américain où ils font une étude maintenant sur leur population, c'est dans ce qu'on appelle un medical provider, il dit que finalement, quand les gens doivent signer le informed consent. Est-ce que vous voulez savoir ou pas? Et puis, il y a ces 56 gènes actionnables. Alors, on va dire, est-ce que vous voulez qu'on fasse, est-ce que vous voulez savoir pour les cancers, ou est-ce que vous voulez pas, ou pour les maladies cardiaques, ou pas, etc. Ils disent, écoutez, docteur, si vous pensez que c'est utile pour moi, je suis d'accord. Si vous pensez que ça n'est pas utile, à ce moment-là, c'est pas la peine. Et donc, si vous voulez, c'est une histoire aussi de confiance, avec le médecin, et ça responsabilise évidemment le médecin, c'est-à-dire de se poser à chaque fois la question,
quelle est l'utilité, mais sans, en étant, je dirais, ouvert, quelle est l'utilité, et en discuter, mais finalement, à un moment, le patient ou la personne normale qui pourrait être un patient, je pense, la plupart vont faire confiance à leur médecin.
Je voudrais avoir simplement vous proposer une vue un peu différente de réponse à votre question. Je trouve que c'est assez effectivement intéressant de se dire non seulement on peut avoir des variations sur le génome, mais aussi, comme vous dites, par l'imagerie, les nouvelles technologies et autres dosages biologiques, en fait, tout un profil complet, complexe, qui peut être analysé. Et donc, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent actuellement à des nouvelles définitions de physiopathologie et de maladie qui soient des définitions, si on prend la génétique, qui soient moléculaires et non plus de symptômes tels qu'on l'a actuellement. Et on pourrait envisager que, en fait, nous soyons tous, non pas en termes génétiques ou en termes moléculaires, mais on pourrait imaginer qu'on mette l'imagerie dedans. Nous soyons tous non pas caractérisés par un variant génétique de prédisposition à ceci ou à cela, mais par un profil complexe en termes de, je dirais, de vecteur de reconnaissance où vous intégrez des profils, un certain nombre ou même un très grand nombre d'informations. Et dans ce contexte-là, on pourrait définir des nouveaux systèmes biologiques de reconnaissance d'individus à risque parce qu'ils ont un profil ou un autre. C'est ce qu'on fait déjà un peu en génétique quand on fait une comparaison de sujets 100 000 sujets hypertendus par rapport à 100 000 sujets normaux tendus. On ne veut pas avoir de faux positifs sur les variants génétiques et on veut faire en sorte que les sujets ils aient à peu près le même background géographique, soit tous à peu près d'Europe, si on veut prendre les Européens, tous à peu près d'Afrique. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse parmi les 1 million de marqueurs environ 50 à 100 000 marqueurs pour voir si les fréquences de ces 50 ou 100 000 marqueurs sont du même profil. On fait des analyses en composantes principales et on peut parfaitement, il y a des papiers là-dessus, définir qui est originaire d'Italie, d'Allemagne, de Normandie, avant que tout le monde se mélange, avant qu'il y ait moins de voyages, je dirais. Et donc, on voit bien qu'en définitive, on peut, à travers des solutions complexes, informatiques, définir des individus, non pas sur une information, mais sur une complexité d'informations. Et si j'en viens à la question de la consultation, on peut imaginer, dans un temps que vous connaîtrez peut-être parce que vous êtes plus jeune que moi, que derrière, ce ne soit plus un médecin qui vous donne une réponse, mais ce soit un ordinateur intelligent qui vous donne une réponse et qui vous dise, vous avez le profil X, vous avez le profil Y. Et là, on en vient à la problématique de la valeur personne par rapport à la valeur biologique d'une personne.
Tu vas t'attirer des questions avec ton ordinateur intelligent. Je pense qu'il y avait une question, madame, voilà, au fond.
Oui, c'est par rapport à la mucoviscidose et les conséquences économiques. Je pense à notre ministre actuel de la Santé qui est une économiste. Est-ce que il y a des gens et qui décident combien, entre guillemets, coûte un malade atteint d'une mucoviscidose? Parce que ça fait des milliers, pas de dollars, mais d'euros de dépenses et beaucoup de souffrances des parents pendant X années et les comptes de la Sécu quand on d'un côté de la colonne on met le nombre de milliers, de dizaines ou cent milliers d'euros dépensés pour un enfant atteint de mucoviscidose par rapport au prix si on faisait à tout le monde le test ou un parent sur deux.
Oui, alors il y a effectivement des données sur les coûts pour diverses maladies. D'ailleurs, c'est assez curieux de temps en temps, quand les gens parlent de leur maladie préférée, celle sur lesquelles ils font de la recherche, ils commencent en général par une diapositive en disant, voilà, il y a tant et tant de personnes atteintes, et ça coûte aux États-Unis 5 milliards de dollars par an. C'est un problème de santé publique, donc il faut financer mes recherches, puisque je travaille sur quelque chose qui coûte 5 milliards de dollars. Alors, effectivement, on a ces données, mais je pense que, pour moi, ça me paraîtrait absolument capital de laisser quand même la décision, parce que finalement c'est la décision d'interruption de grossesse ou de choix, etc., aux parents, mais aux parents informés, et pas à une décision, la mucoviscidose, ça coûte trop cher, donc il faut que tout le monde passe à la moulinette du test, etc. Alors, ceci dit, en Crète, le dépistage de la thalassémie est contrôlé par l'Église orthodoxe et vous ne pouvez pas vous marier si vous n'avez pas le certificat que vous n'êtes pas un couple à risque de thalassémie. Mais enfin, c'est un cas particulier, mais qui est quand même intéressant. Alors, ceci dit, c'est vrai qu'il y a un aspect économique, et un aspect économique récent. Il y a des nouveaux médicaments pour la mucoviscidose qui viennent de sortir. Alors, le plus efficace, il est efficace, alors ça c'est de la médecine ultra personnalisée, il n'est efficace que sur 2% des patients avec la mucoviscidose, ceux qui ont une certaine mutation, la mutation G551D, et vont être sans, vont avoir un effet thérapeutique de l'ivacaftor. L'ivacaftor est sorti à $200,000 par an de coût de thérapie, et en principe une thérapie, alors apparemment ça a diminué, ça n'est plus que 150,000, etc. Mais c'est vrai. Et ça, c'est y a un deuxième médicament qui est moins actif, à peu près pour le même coût, sur le reste des patients avec mucoviscidose. C'est vrai que ça pose à un moment le problème de, au fur et à mesure où on va trouver des médicaments, est-ce que on peut se permettre? Et il y a des pays qui décident, on ne peut pas se permettre. Donc c'est un vrai problème. Je pense que c'est un problème qui mérite discussion et qui n'est pas vraiment discuté de manière, je dirais, officielle. Mais je pense que ça serait quand même très dangereux de lier strictement la liberté de savoir ou ne pas savoir qu'on est à risque d'avoir des enfants atteints de ces maladies graves. Et je milite pour que les gens aient la liberté de le savoir, mais je pense que ça ne devrait pas être une obligation, parce que c'est un choix parental et de parents avec une qui vont se battre. Il y a des parents absolument admirables qui ont eu des enfants atteints avec des maladies extrêmement sévères et qui ont fait que cet enfant a une vie... peut devenir adulte, etc. Donc, je pense qu'il faudrait faire très attention à, en tout cas, ne pas lier de manière totalement... parce que ça coûte très cher, il faut passer à...
Deux points de réflexion complémentaires. Ce qu'on propose là, ou ce qu'on peut discuter là pour la génétique, on peut le discuter pour beaucoup de pathologies. J'ai pas parlé du cancer, mais actuellement, vous avez des immunothérapies antitumorales qui sont extrêmement performantes et qui vont coûter, en termes d'administration, du même coût que ce qui vient d'être indiqué, c'est-à-dire 50, 100 000 euros, pour un gain de vie de quelques semaines ou de quelques mois pour la personne concernée. Jusqu'où la société accepte ou pas de faire cela, en sachant que l'état des lieux à un temps T donné n'est pas le même qu'un temps T plus 1. Que le coût de 50 000 euros, l'année suivante, peut être descendu à 20 000 ou à 5 000 euros. Et que vous, en tant qu'individu, votre poids de vie de 6 mois ou d'un an, il est évident que vous n'avez pas envie qu'on le pèse en termes économiques. Donc ça, c'est une vraie discussion éthique qui, à mon sens, est vraiment très riche et pas évidente. Le deuxième point, c'est que ça nous remet sur le fond, en fait, la discussion de la normalité. Qu'est-ce qu'est maladie? Qu'est-ce qu'est norme? Nous sommes tous des variations par rapport à... c'est une norme gaussienne. Mais donc, il y a des malades. Est-ce que derrière, les malades n'ont pas le droit d'exister parce qu'ils coûtent trop cher? Alors que même... Donc, il y a vraiment, sur le plan philosophique, je trouve des impacts tout à fait intéressants par rapport à cela.
Question. Oui, Pierre-François Plouin.
Oui, ces questions que tu poses, que vous posez tous les deux à propos du coût de la mucoviscidose ou du traitement de certains cancers, sont des coûts de thérapie. Et la chose est différente pour des coûts de prévention. Et donc, il faut faire la distinction entre la génétique individuelle et puis la génétique de population. Donc on peut faire une génétique de population. Actuellement, il y a des gens qui collectionnent des dents de Néandertal, parce qu'on connaît le génome de Néandertal, pour savoir pourquoi elle s'est éteinte, ce qui est des causes génomiques pour ça. Et donc si on trouve dans une population assez large, je vous ai parlé des Askenas, on a parlé brièvement des Japonais à propos de l'alcool des orogenases, si on trouve une population où il y a 10% de risque de développer une schizophrénie, c'est tout à fait différent d'une famille où il y a 10% de risque de développer la schizophrénie. Donc comment peut-on passer de la génétique individuelle à une génétique de population? Est-ce qu'il faut verrouiller le passage entre la génétique individuelle et la génétique de population? C'est un problème qui se pose en génétique, de même qu'il se pose pour la différence entre la prévention et le traitement pour les cancers.
J'aimerais poser, dans cet ordre de l'idée, une question à Jean-Louis et à Xavier sur finalement les assurances, parce qu'on n'a pas du tout parlé de ça. On parle du coût de la santé, etc. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a un moratoire qui persiste. Mais est-ce que vous, qui êtes réellement à la tâche, vous qui pouvez prédire, quand même avec une marge d'incertitude, certes, mais tout de même prédire, et de prévoir avec des économistes éventuellement le coût de la santé, est-ce que vous avez des contacts avec les assureurs? Est-ce qu'il y a un dialogue qui s'établit? Quel est et où va-t-on si on compare à d'autres pays qui sont quand même moins généreux que le nôtre? Il faut quand même voir que l'IVAC After, ça, il est complètement remboursé en France, que les traitements immunologiques des cancers le sont tout autant, mais ça n'est pas vrai dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis. Donc, où va-t-on en termes de la prise en charge par des assurances privées de ces questions-là, Jean-Louis?
Alors, moi, c'est vrai, je n'ai pas vraiment de contact avec les assureurs. Il y a très longtemps, j'avais eu une discussion, mais je crois qu'il y a effectivement, nous avons la chance d'avoir un système de santé. Quand même, qui est très largement un système de santé public, et où les décisions sont quand même valables pour l'ensemble de la population, même si ce système est quelquefois lent à réagir à des imperfections. On n'est pas dans le cas des assurances médicales dans d'autres pays. Je donne l'exemple même pour les examens d'exome. Alors, notre système français, pour le moment, ne rembourse pas les exomes. Dans d'autres pays comme la Suisse, où il y a des assurances privées, eh bien, certaines vont rembourser assez facilement les exomes sur indication médicale, et d'autres non. Ça devient effectivement, ça dépend de quelle couverture vous avez, quelle assurance elle va prendre en charge ou elle ne va pas prendre en charge telle ou telle chose. Alors ça, c'est pour les aspects, je dirais, de coûts de médicaments, de prise en charge médicale. Ensuite, il y a ce problème peut-être des assurances. Par exemple, vous faites un prêt bancaire pour acheter une maison. Alors, en France et dans la plupart des autres pays, d'ailleurs, l'assurance n'a pas le droit de demander les informations génétiques ou de faire un test génétique au patient. Par contre, elle a le droit de demander est-ce que votre père ou votre mère avait une maladie de Huntington. D'accord? Parce que ça, c'était avant le génome. Si vous dites non, il n'y a pas de maladie de Huntington et que soudain vous développez la maladie de Huntington, on peut vous dire mais vous avez, sur le questionnaire, vous avez sciemment menti et donc votre assurance est invalide. Donc, si vous voulez, tout n'est pas, et d'ailleurs, finalement, je veux dire, n'importe quel médecin, quand on parle de médecine prédictive, etc., c'est dans la pratique médicale de demander à quelqu'un qui va chez ses cardiologues, est-ce que vous avez des parents qui ont une crise cardiaque, qui ont un infarctus du myocarde, etc. Pourquoi est-ce qu'on pose cette question? Parce qu'on se dit, si c'est oui, c'est que la personne est déjà prédisposée. On n'a pas fait de test génétique, on n'a pas fait le génome, mais d'une certaine manière, on a une petite idée, et le fait de la poser impose cette petite idée à la personne. Hein, si on demande à une personne, est-ce que votre mère a eu la maladie d'Alzheimer? Ben, elle se dit, si on m'a posé cette question, ça veut dire que si elle l'a eu, c'est que moi, je suis probablement aussi à risque de l'avoir. Il n'y a pas eu de test génétique. Donc, si vous voulez, en tout cas, pour les aspects de prédisposition générale, à part des maladies très fortement génétiques, comme la maladie de Huntington, par exemple, où là, effectivement, c'est devenu une certitude, tout le reste du génome, on est tous à risque de quelque chose. Si ce n'est pas le cancer du pancréas, ça va être celui de la prostate, ou du sein, ou du poumon, qui peut être modulé évidemment par le fait qu'on fume ou qu'on ne fume pas, mais enfin, nous avons un risque d'AVC ou de démence, ça peut être Alzheimer, ça peut être la démence fronton-temporale, ou ça peut être une démence vasculaire par AVC. Donc, si vous voulez, finalement, tant qu'il n'y avait qu'un petit nombre de données génétiques, on pouvait se dire que les assureurs allaient dépister ceux qui sont vraiment susceptibles. Mais finalement, quand on s'aperçoit que tout le monde est à risque, à part des cas très particuliers où ce n'est plus un risque mais une certitude, et où l'assureur peut se dire, lui, il sait et moi je ne sais pas, ça pose un problème. Pour tout le reste de ce qui est, est-ce que c'est 10% de risque de maladie coronarienne ou 30%, mais est-ce que c'est 20% de prostate ou 5%, finalement ça finit par se...
Oui, mais est-ce qu'on pourrait pas, dans la mesure où il y a 56 gènes, tu nous l'as dit, Rudy, qui sont actionnables, est-ce qu'on pourrait pas quand même imaginer une société où finalement... On amènerait, manu militari, je force le trait bien sûr, les gens à savoir si ou non ils ont une mutation dans la mesure où on pourrait prévenir. Est-ce que ça ne devrait pas faire partie d'un bilan plus systématique et plus impératif?
C'est effectivement, par exemple, ce que propose Marie-Claire King, qui est la spécialiste du cancer du sein héréditaire. Maintenant, elle dit, toute femme de plus de 30 ans devrait être testée pour si elle porte des mutations dans BRCA1 ou BRCA2, parce que l'intérêt de prévention est tel. Et d'autre part, alors en France, on fait ce test BRCA1, BRCA2 que dans pour une femme qui a une histoire familiale de cancer du sein, plusieurs cancers du sein dans la famille, etc. Ce qu'elle a montré, c'est que dans 50% des cas, il n'y a pas d'histoire familiale. Et dans certains pourcents des cas de femmes qui ont des mutations dans ces gènes, il n'y a pas d'histoire familiale. Et donc, effectivement, ce qu'elle dit, c'est qu'il faudrait proposer, peut-être pas imposer, mais proposer à toute femme de plus de 30 ans de pouvoir faire le test parce qu'il est actionnable, et parce qu'il y a vraiment un geste thérapeutique acceptable qui permet de diminuer beaucoup ce risque.
Juste un mot par rapport à ça, parce qu'on comprend bien la démarche. Simplement, de nouveau, les limites de validité d'un test correspondent d'une part à cette technicité. Est-ce qu'on peut se tromper? On sait qu'en fonction de l'analyse génétique que l'on fait, il peut y arriver qu'en fonction de la profondeur d'analyse qui est effectuée, ou certaines régions du génome qui ne sont pas parfaitement couvertes, on peut avoir des erreurs sur le résultat lui-même. Et deuxièmement, sur la validité externe par rapport aux populations qui ont été données. Pour reprendre BRCA1, BRCA2, la pénétrance des mutations telles qu'elles étaient évaluées sur les premières familles analysées était très élevée, parce qu'elles étaient choisies justement dans l'analyse de liaison génétique pour essayer de retrouver le gène. On voit bien qu'en élargissant, on peut avoir la pénétrance de variants qui est différente. Donc derrière, la prédiction en fonction du variant, ce n'est pas un domaine que je connais parfaitement, mais la prédiction en termes de valeur positive valeur prédictive négative et positive va varier, et elle varie d'autant plus que l'incidence de la maladie, de façon générale dans la population, est rare ou commune. Donc, faire attention entre association, je ne parle pas pour forcément BRCA1, BRCA2, association entre un variant et une maladie, et son utilité en termes d'outils, de prédiction dans une population donnée.
Patrick Versieren.
Que pensez-vous du couplage possible entre les tests génétiques et le diagnostic prénatal non-invasif? Actuellement, il est destiné uniquement à des analyses chromosomiques. Est-ce qu'il sera ouvert aux analyses génétiques? Et si l'on se met à un séquençage du génome à ce moment-là, quelle sera l'obligation du médecin de dire, par exemple, ce risque plus important de schizophrénie, etc. Est-ce que ces questions sont réfléchies à l'heure actuelle?
Elles sont réfléchies. Alors, sur l'histoire, est-ce qu'on pourra faire du diagnostic non-invasif de séquences du génome? Il y a un papier dans Nature qui est sorti il y a 2 ou 3 ans, où ils ont montré, effectivement, qu'on pouvait établir la séquence génomique d'un fœtus de manière non-invasive, en séquençant le génome du père, en séquençant le génome de la mère, et en séquençant ce qu'on appelle l'ADN libre, qui est présent chez la femme enceinte. Et en faisant... Alors, c'était quand même un tour de force. Mais ce qui était un tour de force, le séquençage du génome, du premier génome humain, était un tour de force dont certains pensaient qu'il n'était pas faisable. Et 15 ans après, ça devient quelque chose de facile. Donc, ce séquençage non invasif du fœtus était effectivement possible, et peut-être dans 10 ans, 15 ans deviendra, j'allais dire, facile. Alors, il y a effectivement beaucoup de questions. Alors, comme le disait, là je suis tout à fait d'accord avec Xavier, en fait, on ne sait pas interpréter la majorité des séquences du génome. On sait interpréter des variations pathologiques évidentes dans 2% du génome codant, et encore, on a souvent ces variants de signification inconnues. Là, pour le moment, les gens disent, si on ne connaît pas la signification, si on est vraiment incapable de dire si c'est ou non dangereux, on ne dit rien. D'accord. Mais effectivement, il y a toute cette gradation des variants de pathogénicité partielle, 10%, 20%. Ça, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, en diagnostic prénatal, même maintenant, parce qu'avec les techniques, on tombe sur ces variants. Et d'ailleurs, on y tombait déjà, quand on faisait la cytogénétique pour la détection de la trisomie 21, quand on trouve ce qu'on appelle un syndrome de Turner, X0, ou quand on trouve un syndrome de Klinefelter, XXY, c'est des choses qui ont un effet sur la santé, mais beaucoup moins, j'allais dire, sévère que la trisomie 21. Et la question s'est posée, est-ce qu'on dit ou on ne dit pas, à l'époque, enfin depuis, quand on trouve un syndrome de Klinefelter ou un syndrome de Turner par cytogénétique de grand-papa, grand-papa le jeune, on dit, et par exemple en France, je crois que il est exceptionnel, mais pas complètement, qu'une famille demande une interruption pour un syndrome de Klinefelter. Dans le cas d'un syndrome de Turner, ça sera probablement un tiers des cas et pas. Donc, et ça va dépendre de pays à pays. Mais la question, effectivement, c'est que quand on faisait de la cytogénétique de grand-papa, ça arrivait pas très souvent de trouver un syndrome de Klinefelter, etc. Si on séquence le génome, on aura plein de choses comme ça. Et donc là aussi, je pense que c'est à la fois avec les sociétés professionnelles comme l'ont fait les Américains pour les gènes actionnables, mais aussi avec le public. D'ailleurs, les Américains ont dû battre retraite parce qu'au début, pour les gènes actionnables, ils disaient, il faut absolument le dire. On ne laisse même pas le choix à la personne de décider est-ce qu'elle veut savoir ou pas. Et donc, il y a eu une grosse discussion, et donc ils ont dit, effectivement, la personne doit pouvoir dire si elle veut savoir ou pas savoir. Et je pense qu'il faut avoir, effectivement, des discussions sur jusqu'à quel niveau, mais c'est très compliqué. Parce que là, c'est la schizophrénie à l'âge de 10 ans ou à l'âge de 45. Si vous voulez, c'est des choses d'une très grande complexité. Je crois qu'il y a beaucoup de discussions dans le milieu des généticiens. Je crois que ça ne doit pas impliquer seulement les généticiens ou même pas seulement les médecins. Il faut que, effectivement, je crois que c'est pour ça que c'est utile qu'il y ait ces discussions. Et qu'à un moment, ça reste quand même un choix de la famille de vouloir savoir ou de ne pas savoir, en sachant que, effectivement, nous sommes tous finalement à risque de maladie.
Alors, il y a une question de Bruno Sainteau, une question de madame, et je crois qu'on terminera avec ces deux questions pour être à peu près dans l'horaire.
Vous insistez beaucoup sur la possibilité de l'individu de décider, mais l'individu, lorsqu'il décide, il décide dans une société qui est marquée par un certain nombre d'idéaux, de manière de vivre, des idéaux du normal, du pathologique, de la vie bonne, ou de la vie qui mérite d'être vécue. Du coup, l'insistance que vous mettez sur la liberté de la personne, évidemment, condition première, mais tout ça, c'est vraiment conditionné par des idéaux sociaux, par des formes de vie. Alors, vous avez insisté tout à l'heure sur la solidarité. Et bien, si on a une société qui se pense comme d'emblée solidaire, on n'aura pas la même approche de la liberté personnelle non plus. Donc, comment vous positionnez-vous par rapport à ça? Parce que vous avez des compétences scientifiques, vous avez un pouvoir de questionnement éthique. Comment vous réagiriez par rapport à ça? Première question. Et la deuxième, c'est que quand une personne se sait atteinte, alors vous allez donner une prédiction, où vous allez dire, à partir de 40 ans, vous avez telle probabilité de déclencher telle maladie. Mais l'intérêt des personnes n'est pas seulement de savoir quand est-ce que ça va se passer, c'est de savoir aussi quel type de vie je vais pouvoir mener. J'étais très sensible au manifeste Ding Ding Dong, là, sur la maladie de Huntington. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Donc, une personne qui dit, moi, on m'a fait le test, et je sais que je suis atteinte par la maladie de Huntington. Bon, mais alors maintenant, je vis comment? Donc, ce n'est pas simplement, vous allez me donner un renseignement technique, mais en fait, c'est la vie qui me reste. Je vais pouvoir la vivre comment? Donc, ces deux questions-là me semblent importantes. Alors, merci de vos contributions, mais...
Voilà. Le capital. Alors, je dirais, la plus facile, pas vraiment facile, parce que tout ce qui concerne la maladie de Huntington, c'est une maladie tellement terrible, c'est jamais facile. Il n'y a pas une chose qui est bien et une chose qui est mal, parce que c'est... dans la maladie de Huntington, effectivement, dans les consultations... Avant un éventuel diagnostic présymptomatique, on demande à la personne effectivement de réfléchir lui-même et avec sur ce qu'il ferait éventuellement de cette information, encore que c'est difficile évidemment de le savoir, etc. Mais et d'essayer de lui parler des incertitudes, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire. Mais effectivement, ça reste sa décision informée de savoir ou ne pas savoir. Il y a déjà, parce que il faut voir toujours, de faire le diagnostic présymptomatique pour celui qui a, c'est qu'est-ce qu'il va faire de sa vie. Mais je connais des personnes qui étaient à risque de maladie de Huntington, qui ont décidé de ne jamais faire d'enfant parce que c'est une maladie tellement atroce qu'ils ne voulaient pas éventuellement la transmettre, et qui se trouvent des femmes à 45 ou 50 ans, finalement elles ont dépassé, elles savent que finalement elles n'étaient pas porteuses, et finalement, toute leur vie a été impactée parce qu'elles n'ont pas fait d'enfants, parce qu'elles avaient cette peur. Donc, c'est très complexe. Votre question est très importante, ça dépend de la société. Et je dirais que la société française n'est certainement pas une des plus ouvertes à la différence. Notre système scolaire n'est pas le plus ouvert à la différence. Et je pense, et c'est la réponse aussi pour la mucoviscidose, etc., qu'on se doit effectivement d'offrir pour ceux qui décideraient de faire un test, mais de conserver, ou de ne pas vouloir faire le test, une prise en charge
qui ne tiennent pas compte du fait qu'ils auraient pu ou pas faire le test, et qui soient une prise en charge optimum. Et je veux dire, c'est vrai que, par exemple, pour la trisomie 21, on peut se dire que voilà, c'est pas un succès de la médecine que en France, je dirais 80 ou 90% des grossesses trisomiques sont détectées. Pas 100% parce qu'on ne fait pas le diagnostic chez tout le monde, on fait un dépistage avec des imperfections. Et que quand il est détecté, je crois dans 95% des cas, il y a une interruption de grossesse. C'est pas un succès de la médecine. Ceci dit, quand on discute avec des parents d'enfants trisomiques à l'heure actuelle, leur anxiété, c'est que faire des personnes trisomiques adultes qui n'ont eux-mêmes pas toujours envie d'être chez papa et maman tout le temps parce que ce sont devenus des adultes, pour des parents vieillissants, c'est est-ce qu'on a encore la force de prendre en charge les problèmes associés, et puis il y a un vieillissement accéléré. Les frères et sœurs, ils sont pas toujours comptables, ils ont pas, voilà, c'est et puis il y en a pas toujours des frères et sœurs. Et une de leurs anxiétés, c'est il n'y a pas assez de lieux de vie corrects pour les trisomiques 21 dans notre pays. Que serait-ce s'il n'y avait pas eu le dépistage de la trisomie 21? Donc c'est un choix, il faut effectivement qu'il y ait des lieux de vie pour laisser la liberté aux personnes de choisir, parce qu'ils savent que s'ils décident de garder cet enfant, parce qu'il y a des enfants trisomiques qui sont absolument extraordinaires, etc., c'est un déficit grave. Il y en a où c'est plus difficile que pour d'autres, et ça on ne le prédit pas. C'est pas seulement l'environnement familial. Hein. Je connais des familles de gens qui se sont battus, etc. Et il y a eu plein de conséquences secondaires médicales de la trisomie qui ont fait que les choses se sont pas passées aussi bien que pour d'autres. Mais je pense que ça c'est une décision de politique. D'ouvrir suffisamment de lieux de vie de qualité, de lieux d'éducation pour des enfants qui sont qui ont une intelligence peut-être moindre ou des problèmes de comportement, en interaction ou en intégration avec le système scolaire, normal. Mais ça, c'est une décision politique. Et le choix des parents pourra être effectivement éclairé par cette possibilité qu'il y a de vraies alternatives pour des vies correctes.
Merci. Je prends une dernière question. Donc, madame, vous avez... Attendez, on va vous donner le micro. Tout à fait au fond, Bruno.
Oui, en fait, c'était deux remarques par rapport à ce que vous avez dit, l'attitude pour le diagnostic prénatal. Il se trouve que j'ai assisté, c'était pas du tout à cette réunion que je me destinais, mais à une réunion où il y avait des échographistes pour les fœtus, voilà. Et en fait, il y a eu une enquête, ils ont fait ça en interne auprès de plusieurs centres, et en fait, il est apparu que les parents apprenant qu'en cas de Klinefelter, qu'il y aurait des problèmes dans la descendance, en fait, c'était ça l'élément essentiel des parents pour décider « non, on ne veut pas poursuivre la grossesse ». Et donc, ce n'était pas le handicap, entre guillemets, pour l'enfant, c'était le fait qu'il n'y aurait pas de descendance, c'était assez incroyable. Et l'autre chose que je tiens à signaler aussi, c'est qu'il y a eu une étude détaillée où on prenait individuellement le médecin échographiste, savoir qu'est-ce qu'il déciderait s'il était tout seul. Est-ce qu'il y aurait un avortement ou pas? Et donc là, il y avait des pourcentages, et il se trouve que les pourcentages, quand on prenait un médecin en individuel, étaient tout à fait différents et beaucoup plus bas pour décider d'un avortement que quand il y avait une réunion à plusieurs médecins multidisciplinaires, et un écart majeur. Donc tout seul, un médecin peut décider non pas d'avortement ou proposer, et un changement majeur avec en présence de collègues.
Merci. Écoutez, je crois qu'on va terminer cette soirée parce qu'on pourrait continuer encore assez longtemps. Mais merci à tous. Merci à Jean-Louis Mandel et à Xavier Jeunemet. Merci Bruno Sato d'avoir proposé et organisé cette soirée sur des sujets aussi importants. Merci.
La prochaine réunion est en janvier, le 18 janvier, sur les problèmes éthiques posés par le don, enfin le prélèvement d'organes. Vous savez qu'il y a une nouvelle loi qui a été votée, qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 2017. Et donc nous discuterons de ces enjeux, nouvelles modalités du prélèvement d'organes et de l'expression du refus. Voilà. Grâce au docteur Alain Tenaillon qui est là. Prêt. Voilà. Vous pouvez déjà le prendre ici.